Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec vous pour le 10h midi avec Rémi Pernelet, Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Bonjour
Valérie.
Bonjour, une belle semaine en perspective. On va recevoir aujourd'hui Sagamore Stevenin et Elsa Linguini. Alors Elsa, elle était chanteuse mais depuis elle est devenue comédienne, une très bonne comédienne d'ailleurs, pour parler d'une fiction puzzle sur France 3 qui sera diffusée sur France 3. Et puis on va parler du débarquement. Que reste-t-il du débarquement 75 ans après ? On va en parler avec Michael Gedge qui a réalisé l'histoire secrète du débarquement, qui est l'histoire incroyable de la manière dont les alliés finalement ont trompé Hitler,
oui,
comment ils ont monté
choses,
hein. Oui, c'était très très bon doc. On en parlera tout à l'heure. Et puis entre 11h et midi, bah, écoutez, on va parler de Laurent Wauquiez, de cette démission surprise ou pas, hein, hier soir aux 20h de TF1. En tout cas, beaucoup de questions autour des Républicains. Est-ce que la droite est morte ? Est-ce que ce parti peut se reconstruire ? 0826 300 300. Et puis est-ce qu'il faut supprimer les vols intérieurs en France, ceux qui sont qui peuvent être remplacés par le train. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est une proposition de François Ruffin et on en parlera avec vous. Et on commence avec les audiences.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Découvrons les audiences.
Les audiences de Rémi. Alors Rémi, le carton de ce week-end.
Oui, alors le carton, mais d'abord, je voudrais vous dire que ce week-end, c'était de très faibles audiences télé général.
Hein. Il a fait beau,
la météo
a fait chaud.
La météo réunit les Français, effectivement, plutôt devant les barbecues que devant la télé. Mais bon, il y a quand même un carton hier, c'est pour TMC. 2 955 000 téléspectateurs et 13,8% de part de marché pour le match amical de l'équipe de France de foot contre la Bolivie. Ouais. TMC hier était la deuxième chaîne nationale, juste derrière TF1. Il y avait 3 090 000 téléspectateurs devant le film After Earth. Mais en fait, TMC, en mars 2018, avait déjà diffusé un match amical France-Colombie. Il y avait eu 4 690 000 téléspectateurs. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Alors, bien sûr, à l'époque, TMC était la première chaîne, mais on était juste avant la Coupe du Monde. Et puis, je voudrais vous dire, le carton ce week-end, c'est quand même TF1, vendredi. 3 644 000 téléspectateurs, 21,3% de part de marché pour Koh-Lanta. C'est la meilleure audience du week-end pour un prime.
Il n'y a pas grand monde, 3 millions,
moins,
c'est pas énorme. Hein.
TF1 était leader devant la série Double Jeu, 2 555 000 téléspectateurs. C'est aussi 600 000 de moins que la semaine dernière. Donc vous voyez, voilà, il y a eu une grosse érosion de l'audience.
Le Gadin, c'est pour qui ?
Le Gadin, c'est aussi pour TF1 samedi, seulement The 2 Voice. Millions, ouais. 577 000 téléspectateurs, 14,5% de part de marché pour The Voice, 800 000 téléspectateurs de moins que la semaine précédente. C'est le plus bas record historique de l'émission. Le télécrochet de TF1 n'était jamais descendu sous les 3 millions de téléspectateurs depuis sa création. Jamais non plus sous les 15% de part de marché.
Ouais, c'est très compliqué, il n'a toujours pas été re-signé. Il y a certains articles dans la presse People qui annoncent Céline Dion en remplacement de Julien Clerc.
Bien sûr.
Moi, j'y crois pas trop déjà. Et puis ensuite, elle est en tournée.
Et la fin, moi, j'ai lu des articles qui annonçaient aussi peut-être la fin de The
Voice.
Parce qu'il y a
le numéro 8, Star Academy s'est arrêté au numéro 8.
Voilà.
C'est vrai que la question se pose, là, l'érosion des audiences,
elle est claire et
implacable. Oui, c'est ça. Samedi, la première chaîne, c'était France 3, d'ailleurs. Il y avait 3 millions 10 000 téléspectateurs. Pour la fiction Roche Noire, c'était une rediffusion. Ça avait été diffusé et il y a à peine plus d'un an que ça avait été déjà diffusé la première fois. Puis bon, samedi, Gadin aussi quand même pour M6, MacGyver était à 1 077 000 téléspectateurs, 6% de part de marché pour la série américaine. Bon, ça marche pas du tout, quoi.
Ça sent bon pour Puzzle, dont on va parler après.
Voilà.
Peut-être.
La surprise ?
Oui, la surprise, Valérie, c'est évidemment le score de BFM TV samedi soir. 2 500 000 téléspectateurs. Alors ça explique aussi, évidemment,
la déperdition qu'il y a pu y avoir sur The Voice.
The Voice. 14,3% de part de marché pour la chaîne d'info qui diffusait donc la finale de la Champions League entre Liverpool et Tottenham. BFM TV était presque à égalité avec TF1 samedi soir. Il n'y avait que 70 000 téléspectateurs d'écart. En fait, le pari d'Alain Veil, le patron de BFM TV, a été payant puisque, je rappelle, le CSA avait déclaré
que cette diffusion contrevenait
à la convention de la chaîne d'info.
Et alors, il va se passer quoi ? Parce que ça met quand même en cause.
BFM TV risque une mise en demeure. Et puis voilà, samedi, ils ont raflé la mise. Ils auront certainement une mise en demeure. Au bout de la deuxième mise en demeure, il peut y avoir une pénalité, une amende. Mais voilà.
On est le seul pays où l'autorité de télévision n'est jamais respectée, je peux vous dire.
Mais
en fait, aux États-Unis, ils font peur.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit de. Enfin, l'autorité ne peut pas intervenir a priori, ne peut intervenir
qu'à posteriori. Il pourrait y avoir une suspension d'antenne, une amende.
Alors, il s'appuie sur la jurisprudence LCI. LCI a rediffusé des matchs de l'équipe de France.
Ça peut s'argumenter en documentaire. Enfin, c'est de la.
Non, la Coupe du Monde 98, le 2018.
CSA n'avait pas dit non. LCI a fait une demande au CSA.
Non, le LCI n'a pas fait de demande au CSA. Simplement, il y a d'autres chaînes qui s'en sont émues, comme BFM TV, qui ont demandé au CSA est-ce que c'est normal que LCI puisse rediffuser des matchs qui se sont passés hier ou avant-hier de l'équipe de France en Coupe du Monde 2018. Ils ont dit pas de problème. Donc évidemment, ils vont dire ah bon, vous avez autorisé un match en différé, et là parce que c'est en direct, c'est interdit. C'est fragile juridiquement.
Ouais. Enfin, je trouve que entre le direct et le différé, c'est pas le potentiel d'audience, c'est pas du tout le même quoi. Et effectivement, le CSA a dit non.
CSA a dit non. Ça n'a pas de valeur juridique.
Le CSA a dit non et visiblement le CSA n'a aucun effet. Donc, en tout cas, on verra. Sandra nous dit c'est chiant The Voice, c'est toujours pareil, il faut du renouveau. Voilà. Et donc.
Ils avaient essayé de faire du renouveau. Hein. Ils ont inventé des nouvelles
épreuves
qui n'ont pas marché.
Ça n'a pas vraiment fonctionné.
Allez, on va passer à nos appels, nos auditeurs en ligne avec nous. On a Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors, vous avez regardé quoi?
Double jeu vendredi soir.
Ça vous a plu?
Oui, disons que c'est la deuxième fois que cette série passe. Donc, je commence à rentrer dedans parce que c'est quand même un scénario assez original. Quand même.
Oui, c'est original. C'est un peu déstabilisant, non?
Oui. La première fois, je n'avais pas compris. Je devais faire autre chose pendant qu'il passait une image importante. Et moi, je me dis, mais il ne bouge pas, le gars, la fille. Elle se fait m'attraquer, il ne bouge pas, lui. Ça m'énerve. Et puis après, je dis, ah, mais il est imaginaire, ce gars-là. Parce qu'au départ, voilà. Ouais. Bon, maintenant, je suis rentrée dedans.
Et ça vous plaît, alors, ce principe?
C'est un peu improbable, quand même.
Oui. C'est sa conscience.
Vous regarderez, vous continuerez à regarder les autres épisodes?
Oh oui, ça passe un moment. Puis de toute façon, il n'y a pas grand-chose parfois sur les autres chaînes.
Regardez pas Koh-Lanta.
Vous n'êtes pas Koh-Lanta,
Françoise.
Non. Eh bien, merci de nous avoir appelés. Merci Françoise, vous nous appeliez de la région parisienne. On a Guillaume en ligne. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous nous appelez d'où déjà, vous?
J'appelle du Gard.
Du Gard. Et vous avez regardé quoi ce week-end?
J'ai regardé la finale de la Ligue des Champions sur BFM.
Eh ben voilà.
C'est un contrevenant, c'est inadmissible.
Et alors, vous avez pas été déstabilisé par la retransmission sur une chaîne d'info?
Ben non, tant que je vois le match gratuitement, c'est parfait.
Ouais,
hein.
C'est ça, ouais, voilà.
Ouais. Et les commentaires,
disons que, vu que j'écoute pas mal le foot à la radio sur RMC, du coup, les voix, je les connaissais déjà.
Ah, voilà.
Donc, ça m'a pas déplu et je pense que c'est quelque chose à refaire.
Bon.
Ça change.
Bah, écoutez, tant mieux si ça vous a plu. Merci.
Sur les réseaux, ça allait dans ce sens-là. Il y a eu beaucoup de tweets qui disaient que les commentaires étaient plutôt bons.
Plutôt bons, bah oui, parce qu'ils ont l'habitude, effectivement.
Oui.
De faire ça.
Ah bah c'était, oui,
voilà, bah écoutez, non, je regarde. Télé éteinte ou pas de télé du tout. Alors, aujourd'hui, c'est la meilleure solution, nous dit Philippe. Écoutez, mais dites-nous ce que vous faites. Alors, si vous ne regardez pas la télé, est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous faites là? C'est vrai qu'il a fait beau, donc il y a eu peut-être des
bronzés,
sorties, des choses comme ça. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Ah, elle est trop forte. Sandrine Saroche, vous savez, à cause de l'ascension. Oui, j'ai eu un peu de retard, car la séquence a été diffusée mercredi
2019, quand même.
Sur Paris 1er dans Zemmour et Nolo, c'était mercredi dernier. Et vous allez voir, elle se jouait des résultats des élections européennes, et avec l'annonce d'hier de Laurent Wauquiez, c'est encore plus de résonance. Et elle nous parle évidemment des petits papiers dans les urnes. Vous savez, les petits papiers ont parlé.
Éparpillé, Laurent Wauquiez. Aux élections, nous l'évoquions, anéanti le bel ami, à 8,5, c'est pas brillant, mon petit Laurent. Il s'est fâché, Gérard Larcher, elle n'a de cesse, la môme Pécresse, de t'enfoncer Mais quel fiasco, dit Retailleau.
Ouais, donc c'était annonciateur, bah, annonciateur de ce qu'elle est
passée. Je vous l'ai mis. Voilà. Et Laurent Wauquiez, donc, qui a rendu ses papiers de président, une démission en direct sur TF1 qui a fait parler. Alors maintenant, une question se pose. Que va faire Laurent Wauquiez?
Ça veut dire que vous avez l'espoir un jour de devenir président de la République ou en tout cas d'être candidat? Ça veut dire que votre vie politique ne s'arrête pas ce soir?
Ça veut juste dire, Madame Coudray, une chose, c'est que ce soir, je suis serein. Il n'y a pas d'amertume. Parce que la décision que je prends, je pense que c'est la seule décision responsable. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je me suis toujours construit par le terrain. C'est là que j'ai appris. Dans ma ville, au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, dans ma région. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est mes racines. Et je vais juste me consacrer à me battre pour ces habitants qui m'ont fait confiance. Voilà ce que je vais faire, tout simplement.
Vous avez vu, il a le même phrasé que Sarkozy, si vous écoutez bien dans la façon dont il parle. Il y a eu beaucoup sur Twitter de comparaisons suite à cet extrait-là. Et donc voilà, un homme politique s'en va, mais on revient toujours en politique.
Oui, je pense.
Voilà. Une ascension ensoleillée et chaude, vous en parlez Rémi. Et évidemment, un monde fou hier sur les terrains de Roland-Garros, sur la terre battue. Le Suisse Stan Wawrinka, et visiblement, vous allez voir qu'il avait un fan dans les tribunes et le joueur helvétique a apprécié.
Déclaration d'amour pour le Suisse et qui lui renvoie le bisou. Voilà pourquoi il est apprécié, pourquoi on adore ce joueur. Il est à la lutte avec Tsitsipas depuis plus de 4 heures pour se qualifier pour les quarts de finale.
C'est Agassi Tsitsipas qui l'a regardé.
Non, regardez, il s'en amuse lui aussi. Voilà, c'est un super moment, vraiment.
Voilà, c'est ça, Roland-Garros. Ouais. Ça a chauffé sur CNews.
C'était un match spectaculaire.
Ouais, hein, avec
le plus spectaculaire de la journée. Non,
non, Wawrinka
et Tsitsipas, 5-7, 5 heures.
Exactement. Et qui a gagné, Rémi?
C'est Wawrinka.
Je vous le fais.
9-7 au dernier set.
C'est bien, vous l'avez dans l'oreillette. Non. Alors ça a chauffé sur CNews dans l'émission de Pascal Praud. Vous allez voir que parfois un mégot peut enflammer tout un plateau.
Mais je ne fume pas. Mais je te répète, mais Gérard, je ne fume pas. Je dis, si quelqu'un veut fumer sur la plage, ça me...
Sans vouloir être anti-américain, c'est quand même l'américain.
Ça me paraît, si quelqu'un veut fumer sur la plage, je vais pas aller lui dire, en plus, jouer mon policier, je vois les gens aujourd'hui, je vous répète, et puis ils viennent te donner des leçons de morale. Et monsieur, et mon fils qui a 2 ans, il va avoir un cancer du poumon. C'est cet état d'esprit que je supporte pas. Voilà, cet état d'esprit de petit, de médiocre.
Pas du tout, quand je vois des enfants, qui jouent sur la plage et qui sont avec des mégots, je trouve ça ignoble.
Et oui, c'était un débat, vous l'avez compris, sur l'interdiction de certaines plages.
De fumer sur certaines plages.
Ouais. Et pour finir, un peu de philosophie avec la disparition de Michel Serres, ou de Michel Serres, comme a dit en direct Nico Aliagas.
Nikos.
Alors l'extrait, je l'ai fait exprès, mais bon, c'est pas grave.
C'est
l'humour.
Ouais, c'est
lundi matin. Et l'extrait a totalement disparu des réseaux sociaux. Impossible de le retrouver avec notre réalisateur Jamel. Donc vous n'aurez pas l'extrait, même dans le replay de TF1.
Vous l'avez très mal vendu, votre truc.
Non, parce que ce n'est pas cet extrait-là que je vais vous passer. Donc, l'académicien est mort donc, ce samedi. Non, mais je voulais le citer. Ce samedi à 80...
Ça méritait d'être mieux cité. C'est-à-dire que c'était... mais c'est la... Michel Serres et pendant The Voice en direct. Pendant The Voice en direct, Nikos a fait référence au décès de Michel Serres, et non pas de Michel Serres. Voilà.
Après, il a dit expliquer qu'il y avait un port qui existait en Grèce qui s'appelait Cérès et qu'il avait confondu les deux.
Oui, d'accord. Et la mort du porc, c'est ça?
L'académicien, voilà, vous m'avez perturbé. Oui, l'académicien est mort ce samedi à 88 ans. Et l'homme était étonnamment moderne, avec un livre, vous vous souvenez, sur les réseaux sociaux, entre autres. Et il avait eu cette phrase ironique et acerbe sur la télévision.
Aujourd'hui, par rapport à nos ancêtres, nous avons gagné 3h37 d'espérance de vie par jour, ce qui est colossal. Et ce chiffre-là, 3h37, correspond exactement au temps passé moyennement par les gens devant la télévision. C'est-à-dire, l'espérance de vie qu'ils ont gagnée, ils le perdent à devenir cons. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire.
Voilà. C'était un monsieur formidable, charmant, vraiment, vraiment quelqu'un. De... Vous pouvez lire ses livres, La Petite Poussette, c'est formidable. C'était d'un visionnaire ce qu'il a écrit. Vraiment facile à lire pour vous qui ne lisez, qui ne regardez pas la télé. Vous êtes nombreux alors à me dire que vous avez fait des barbecues, que vous regardez beaucoup sur YouTube des replays, que vous regardez Sud Radio, les émissions de Sud Radio. Bah, très bien. Et puis Laurent Wauquiez, bah, écoutez, vous êtes nombreux à en parler. On va en reparler à partir de 11h. On va tout de suite se retrouver sur Sud Radio avec Sagamore Stévenin et Elsa Lenghini pour cette série, cette fiction qui s'appelle Puzzle.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Les invités du jour.
Les invités du jour, Elsa Lenghini, bonjour. Sagamore Stévenin, bonjour. Merci bonjour. D'être là. L'ambiance est assez joyeuse pour nous parler d'une fiction qui est quand même assez sombre. Puzzle, qui sera diffusée samedi soir, samedi 8 juin à 21h sur France 3. C'est une case qui cartonne hein, déjà, donc vous êtes assurés.
Donc on ne s'inquiète pas, c'est ça.
Vous inquiétez pas. Non, okay. Puis c'est surtout très bon avec un casting de dingue hein, pour cette fiction qui bah, démarre dans un petit village tranquille. Il y a un corbeau. Le corbeau menace de révéler l'identité de personnalité qui aurait commis un meurtre quelques années auparavant. Déjà, donc vous incarnez un juge, Sagamore Stévenin.
Ça a été assez difficile. Ouais.
Ça a été difficile parce que vous êtes flic d'habitude.
Ou voyou.
Ou voyou, flic ou voyou. La juge, c'était un rôle de composition.
Non, de composition, je ne sais pas. Après, c'est vrai que juge, c'est une personnalité, j'allais dire, en termes de télé, assez rare. Hein. Il y en a un qui l'a extrêmement bien interprété, et d'ailleurs je souhaite lui rendre hommage, c'est le juge de Engrenage, parce qu'il est formidable. Et il met toutes les nuances de ce métier. Moi j'ai essayé d'être le plus simple possible, ce qui n'est pas toujours évident pour moi. Ça vous fait rire.
Oui, vous faites rire. Mais vous avez des fous rires tous les deux avec Elsa. Oui,
c'est pour ça que je regarde.
On ne se regarde pas, on ne se regarde plus.
Vous connaissiez avant ?
Non. On s'est découvert sur le tournage.
On s'est reconnus.
Voilà. Et vous êtes devenus très complices.
Oui, ça part au quart de tour.
Voilà.
Parce qu'en plus, comme ce sont que des scènes assez tendues, notamment dans les rapports entre vous, en tout cas
elle
au
m'a
début.
Fait peur, Elsa.
Vous êtes formidable. Elsa en femme un peu désabusée, aigrie.
Meurtrie. Ouais, ça, meurtrie. C'est une femme qui a subi un accident de voiture qui s'est fait renverser par une voiture.
Vous êtes en fauteuil roulant.
Je suis en fauteuil roulant. J'ai perdu l'usage de mes jambes. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu mon métier et en plus j'ai rencontré cet affreux qui était concertiste et qui a été obligé d'arrêter son métier. Enfin, c'est une femme qui a tout perdu, donc
Donc on va pas tout dévoiler, c'est toujours un petit peu compliqué de parler, de donner envie de voir des fictions comme celle-là, parce que ce qui est plaisant, c'est de découvrir justement, mais on peut dire que vous formez un duo qui est assez... on voit que vous êtes complices comme ça dans la vie. Je ne veux surtout pas évoquer plus, mais c'est important, de montrer, de dire que votre duo fonctionne super bien, quoi.
Je crois. Mais
regarde pas, je vais rigoler.
Non, mais c'est difficile d'avoir un recul sur sur ce qu'on dégage.
Non, mais vous
dégage,
l'avez senti certainement. Au moment du tournage.
De toute façon, c'est important pour ce genre de rôle de s'entendre bien avec son partenaire et qu'il y ait une aide, parce que c'est vrai qu'on se marre beaucoup et que dès qu'on a le qui frise dès qu'on se regarde et tout ça, mais il y avait un grand respect dans le jeu et dans le travail de l'un et de l'autre, parce que c'est pas évident à jouer et qu'on n'a pas envie de mettre en péril le jeu de l'autre. Donc, je crois que
Alors, il faut dire Valérie, c'est que il y a une vraie. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce téléfilm, c'est qu'il y a une atmosphère très pesante et très bien retranscrite à l'image. Et petit à petit, on sent les choses se resserrer. Il y a une couleur d'image aussi,
Une lumière,
très particulière qu'on peut voir dans certains films d'horreur avec des feux follets, des images un peu grisâtres. Et c'est vraiment l'atmosphère est vraiment importante dans ce
film. On peut dire quand même, on oublie souvent scénariste, réalisateur. Scénariste, c'est Hervé Corian et la réalisatrice Laurence Catrillon. Oui. Donc c'est vrai que c'est aussi important, très important dans la tonalité que.
Oui, puis Laurence, en ce qui me concerne, j'avais travaillé avec elle très peu de temps avant. Et c'était un deuxième film que je faisais avec elle. D'ailleurs, c'est un meurtre à Lille qu'on a fait, qui n'est pas encore diffusé. Oui. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui, que ce soit la femme ou la réalisatrice, il y avait une confiance totale en elle et en ses capacités.
C'est pour ça que vous avez accepté c'est le scénario qui vous a plu.
Bah, d'abord pour Sagamore, ouais. Et puis ensuite, oui, il y a Laurence. Voilà. Oui, elle m'a proposé le rôle. J'ai lu le scénar d'abord.
Vous devez recevoir pas mal quand même des scénarios.
Oui. Mais qui sont pas toujours bien.
Oui, non, mais c'est ça. Oui.
Et c'est vrai que ce rôle-là.
Qu'est-ce qui l'emporte c'est à part Sagamore Stevenin.
Oui, à part Sagamore, le rôle, ouais. Le réalisateur, là, et puis les partenaires aussi, bien sûr.
Et le cachet quand même.
Non, après ça, c'est ensuite. Non, c'est ensuite.
Oh, c'est bien, elle est formidable. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant avec Elsa Longini et Sagamore Stevenin pour parler de Puzzle, formidable fiction qui va passer samedi soir sur France 3 à 21h.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et on parle d'une fiction qui va être diffusée samedi soir, une fiction policière sur France 3, Puzzle, avec Sagamore Stevenin, Elsa Longini et Nedra Ayadi qui joue également à vos côtés. Sagamore Stevenin, vous incarnez un juge, comme on le disait dans la première partie, vous êtes plutôt flic d'habitude, où on se souvient de Falco évidemment, ou voyou. Là, ce rôle de juge, il a fallu être un petit peu plus... sobre, quoique.
Sobre, avant j'en faisais des caisses.
Non, mais par rapport à un flic ou par rapport à un voyou, la profession de.
On ne sait pas un vrai, véritablement.
C'est pas un vrai. C'est un juge d'instruction qui avait été écarté de l'affaire, il faut le dire, auparavant. Donc il y a une petite revanche à prendre.
Voilà,
il y a un peu borderline.
Borderline.
Surtout qu'il vient de son propre chef, je ne sais pas d'ailleurs si légalement c'est juste.
Non, ça
ne
tient pas. Mais en même temps, bon, c'est de la fiction, c'est fiction, c'est français.
Ouais. Et donc, oui, ce rôle de juge, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans le rôle, quand on vous l'a proposé ?
Ce qui m'a intéressé, en fait, c'est les murmures. C'est pas forcément le personnage. Je trouvais que l'histoire d'un corbeau, l'histoire d'un village qui se met en émotion et en perdition par rapport à ça, me touchait particulièrement. Je trouve qu'on arrive dans une époque où les corbeaux peuvent revenir.
Ouais, donc voilà. Ce scénario...
Ça me parlait particulièrement humainement. En fait, généralement, quand je reçois un scénario, j'essaye de ne pas lire le personnage qu'on me propose, mais plutôt l'enveloppe globale
de ce que ça raconte.
Voilà. Ouais. Après, c'est vrai que interpréter un juge, me semblait pas forcément évident pour moi au départ, et de trouver une espèce de rigidité, rigueur... En même temps, c'est aussi un juge qui a perdu... gros moments de vie et d'amour dans sa vie, et donc ça lui donnait une faille qui permettait de laisser passer...
Un peu cabossé, quoi.
Ouais, j'aime bien les failles parce qu'elles laissent passer la lumière.
Et dans vos histoires personnelles, vous avez déjà reçu des lettres anonymes, ou quand vous étiez en haut de l'affiche, j'imagine, de la chanson, vous avez dû recevoir de sacrées lettres ou des choses non signées, non ?
Oh oui, mais signées aussi. Hein.
Vous receviez
des
quoi ?
Choses qu'on... Ah ben, j'ai porté plainte plusieurs fois. C'était inquiétant, j'avais des gens très inquiétants qui me suivaient, j'avais des flics à la sortie de l'école, j'avais des choses très bizarres, oui. Ne dis rien,
C'est triste,
on parle d'un truc tragique.
Non, c'était particulier, c'était une époque très particulière, oui.
Et vos plaintes ont abouti ou pas, vous les avez rencontrées, vous avez fait face à eux ou pas ?
Non.
Vous ne vouliez pas les voir ?
Non, on évite. Non, quand t'as quelqu'un qui vous écrit en bas de chez vous et qui connaît votre adresse, qui connaît votre enfant, qui part à l'école, enfin c'est très flippant quoi.
Mais c'est vrai que ce que disait Sagamore Stevenin est juste sur l'ambiance aujourd'hui, sur ce qui se ressent aujourd'hui, sur la violence des rapports humains, sur la dénonciation, sur tout ça, et qu'on retrouve en fait dans la fiction de samedi.
C'est essentiellement ce qui me touche quand je reçois un scénario. Je pense que particulièrement à la télé, peut-être plus qu'au cinéma, je pense qu'il y a une espèce de responsabilité. Ça veut pas dire être moralisateur, hein, c'est-à-dire une responsabilité de ce qu'on incarne et de ce qu'on transmet aux gens. J'ai adoré travailler sur cette série Falco, parce que je trouvais que justement ça permettait d'amener une empathie de la vie et une empathie d'un regard sur l'étranger, sur ce qui nous est étranger.
Vous regrettez de l'avoir quitté, Falco ? Je l'ai lu là, en préparant l'émission, une interview où vous disiez que ce personnage était toujours proche de vous.
On a vécu ensemble pendant 4 ans, avec le même flingue, le même cuir et les mêmes bottes. Je regrette pas d'avoir quitté Falco, je regrette que l'aventure se soit terminée. C'est comme des belles histoires d'amour, à un moment on regrette toujours qu'elle s'arrête. Mais je trouve qu'en tout cas, la télé, dans le fait qu'elle soit accessible à tout le monde de manière immédiate, a une responsabilité par rapport au public.
Oui. Et quelle série vous aimez bien à la télé? Vous regardez beaucoup la télé?
Alors, en ce moment, je suis devenu complètement dingue d'une série qui s'appelle The American, qui est sur Netflix.
Très bien, bah oui. Ah ouais.
Et je passais sur Canal auparavant.
Alors, comme j'ai pas la télé, j'ai pas Canal, mais j'ai Netflix. Je suis dans mon moulin le soir, il y a la rivière qui coule et je regarde ça. Ouais, et je me dis vraiment qu'en France, on a 35 ans de retard. Quoi. Ouais.
Pourquoi vous l'expliquez comment? Pourquoi on n'est pas capable de faire The American?
Je pense pas qu'on n'est pas capable de faire The American. Je pense qu'il y a trop de gens à la télé qui sont payés pour avoir peur.
Ouais. Le bureau des légendes, ça fait un peu...
Alors, je vais encore pas me faire des potes et je vais encore reprendre 6 mois de chômage dans la tronche. Mais si je regarde la télé des années 60 en France, que ça soit 5 colonnes à la une, que ça soit, on avait une énergie, il y avait une prise de risque incroyable. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est Pompidou, plus De Gaulle, plus tout le monde qui est revenu.
Parce que c'est les chiffres qui décident, c'est des statistiques,
c'est
et
pas
des
forcément...
études plutôt que...
Oui, mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est comme disait Coluche, il suffirait qu'on arrête de leur vendre de la merde pour qu'ils arrêtent de la regarder.
Non, c'est vous, trouvez que vous parlez de baisse de qualité sur la fiction ou en général
je
sur
trouve
les émissions de divertissement ?
Je trouve qu'il y a trop de gens qui ont peur.
De prendre des risques.
Et que... la base de notre métier, que ça soit à la télé, que ça soit au cinéma, que ça soit au théâtre, j'ai jamais fait la différence sur un plateau en arrivant. La base de notre métier, c'est d'un point de vue. Un point de vue de ce qu'on raconte. Et je trouve malheureusement, mais c'est un avis très personnel, et je vais encore pas me faire des potes, que quelque part, on essaye de plaire à tout le monde. Et quand on veut plaire à tout le monde, généralement, on plaît à personne.
C'est compliqué d'être comédien aujourd'hui ?
C'est aujourd'hui, où je pense que ça a toujours été compliqué. Ouais. Mais...
Elsa ?
Oui, je pense. Ouais.
Il y a des...
oui, je pense que c'est compliqué.
Il y a des gens bankable, d'autres qui ne le sont pas.
Ah oui, de toute façon, quand on n'est pas dans la case, quand on n'est pas sur le devant de la scène, à un moment donné, vous n'intéressez personne. Donc, il suffit de faire juste un truc, dans le bon truc,
voilà,
au bon
et d'un
moment,
seul coup, vous passez du bon côté.
Et on vous propose tous les scénarios du monde. C'est... voilà, non, c'est pas simple.
Je trouve que c'est un métier qui est assez à l'image de la vie. C'est-à-dire que la vie est profondément injuste. Donc, c'est-à-dire que quand on est à la mode, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on est à la mode. En revanche, quand on reçoit moins de scénarios, on se demande pourquoi on en reçoit moins.
Voilà. Et vous avez des projets, alors racontez-nous un peu la suite, c'est ça.
Les Américains, en version française.
Non. J'adore le cinéma américain. J'adore les Américains quand ils viennent à Cannes en disant que c'est grâce à Jean-Luc Godard qui fait le cinéma, surtout quand c'est Tarantino. Ouais. Je veux bien échanger Jean-Luc Godard contre Tarantino, voilà. Là, je suis en pleine préparation d'un long métrage, mon premier long métrage. Et donc, je comprends enfin aussi maintenant... pourquoi quand je commençais un tournage et que j'étais face à un réalisateur ou une réalisatrice et je me disais il est vraiment épuisé quoi. On n'a pas commencé le film, il est épuisé. Ouais. Et ben maintenant je comprends
c'est vous qui êtes épuisé.
C'est-à-dire que c'est un tel chemin de croix avant, il y a tellement d'étapes à passer.
Vous avez déjà le casting et le...
C'est en cours. Et j'ai un ami qui m'a dit une très belle phrase que j'ai dite à Elsa juste avant de rentrer. Il m'a dit en fait tu sais ça, le boulot d'un producteur. C'est de convaincre le réalisateur la veille du tournage qu'il a toujours envie de faire ce film. Je comprends. Parce qu'on a fait déjà écrire le scénario en soi, c'est vraiment une partie de son humanité qu'on met sur la table et qu'on essaie de transcrire à travers le papier, à travers les mots. Mais ensuite, le parcours est tellement difficile, tellement compliqué. Alors quand j'entends des Catherine Deneuve qui disent, avant d'aller à Cannes, qu'il y a trop de films en France... Oui, peut-être.
Mais... encore vous faire une copine.
Non, j'adore Catherine Deneuve, mais voilà, quelque part, je ne pense pas forcément qu'il y ait trop de films en France. Je dis que finalement, grâce au CNC qui m'a envoyé chier d'ailleurs, on n'a pas vécu la traversée du désert du cinéma italien ou du cinéma anglais, où d'un seul coup, il n'y a quasiment plus de films qui se faisaient du tout.
Est-ce qu'il vaut mieux plus de films et une traversée du désert que beaucoup de films très mauvais qui finalement ne rencontrent pas leur public
Qui peuvent amener une traversée du désert,
parce que c'est vrai que quand on regarde parfois la production française... cinématographique, là on change un peu de sujet, mais on s'interroge un peu parfois sur des films qu'on aurait très bien vus le dimanche soir sur TF1 et parfois il y a des
mais
téléfilms.
J'ai beaucoup de respect pour le dimanche soir.
Oui,
sur
moi
TF1,
aussi, moi aussi.
Mais je pense simplement qu'il y a des très bons téléfilms qui mériteraient de sortir au cinéma. Et inversement, mais... des films cinéma qui pourraient très bien passer à la télé et ça ne gênerait personne. Ce qui est intéressant, c'est le parcours des acteurs et des réalisateurs. C'est de voir qu'avant, il y a 10 ans, par exemple, les acteurs de cinéma très connus, en gros, gerbaient un peu sur la télé, parce que c'était le genre mineur. Après, ils se sont rendus compte que faire des films à 18 millions d'euros qui font 400 000 entrées, bah, vaut mieux faire un film à 1 million d'euros qui fait 6 millions de spectateurs, en gros. Donc, les choses sont en train de se rejoindre.
Ouais.
Mais une fois de plus, et c'est pas pour faire l'apologie du cinéma américain ou anglo-saxon, mais on a 20 ans de retard. Ça fait 20 ans qu'il y a des grands acteurs américains qui vont faire... Je me rappelle déjà de Columbo. Merde, putain, putain, Falk, Cazavette, Gena Roland.
Bah, on est juste des finances gardiens, je ne vous permets pas.
Navarro.
Navarro.
J'ai rien contre Joséphine.
Joséphine. Ils n'ont pas Joséphine.
Elsa, vos projets à vous ?
Là, je pars tourner sur Quin.
Sur
Quin.
Quin. Ah oui, la série de France 2.
Tu restes en chaise roulante ou...
Non.
Tu as dit que c'est
moi qui suis pas en Suède. Non, c'est un très beau rôle. J'ai deux rôles à jouer. C'est deux sœurs jumelles et c'est très, très. Un rôle aussi très complexe et très intéressant à interpréter.
Eh bien, Puzzle, ce sera samedi soir, donc à 21h sur France 3. Et c'est vrai que la fiction de France Télévisions, il faut saluer Anne Holmes qui a réussi à prendre des risques pour le coup et à impulser des choses. Mais Aux animaux, la guerre, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était formidable, vraiment, mais qui était difficile. Là, il y avait du courage, ça n'a pas marché, mais c'était une fiction qui était digne d'un film de cinéma, qui était remarquable avec Roche Dizem.
Samedi soir, ça marche toujours très bien, les fictions sur France 3. C'est une très belle case pour la fiction française, avec toujours dans des régions. Je trouve que ça, c'est aussi un point très fort de ces séries et de la vôtre, notamment.
Oui, puis là, vous n'avez pas The Voice, donc...
Il n'y a pas The Voice, il y a quoi en face ?
C'est quoi The Voice
Vous ne savez pas ce que c'est The Voice ? C'est américain pourtant le format. C'est des gens qui s'entourent sur des chanteurs, mais je sais bien.
Il y a quoi ? J'ai découvert au Canada, j'ai vu la version canadienne. Bon. Très rigolo.
On s'en fout. On regarde Puzzle samedi soir à 20h, à 21h sur France 3. Vraiment, regardez-le parce que c'est... Vous êtes vraiment formidables tous les deux. Le couple fonctionne très bien et on voit que la complicité est là. Merci à vous.
Merci à vous.
Se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Et on peut jouer sur Sud Radio. Écoutez Sud Radio toute la semaine. Vous pourrez gagner 4 places pour le parc Spirou Provence. Ça vous tente, Gilles, n'est-ce pas ?
Oui, je vais y aller.
Pour aller vivre des aventures avec le Marsupilami, Lucky Luke, Boulet Bill, Gaston Lagaffe, tous les amis de Spirou. Donc c'est un nouveau parc à thème qui est situé près d'Avignon, à Monteux. Donc il y a plein d'attractions. Il y en a pour les petits, les grands. Et vous pouvez gagner 4 places, 2 adultes et 2 enfants. Donc appelez-nous. 0826 300 300 vous donnera le nom du gagnant juste à la fin de l'émission. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi, à partir de 11h, on va revenir sur la démission de Laurent Wauquiez. Et entre 10h et 11h, les médias et l'événement, ce sera demain sur France 2, l'histoire secrète du débarquement. C'est dans le cadre de l'émission Cellule de crise qui est présentée par Julien Bugier. Et on en parle avec vous. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma feuille.
Michael
Gage, vous êtes le réalisateur de ce documentaire assez formidable qui raconte... l'histoire secrète du débarquement. Alors on a tout, on parle du débarquement qu'on va commémorer jeudi prochain, ce 6 juin, et on sait assez peu ce qui s'est passé, et ce documentaire a le mérite de raconter les dessous de ce débarquement. Alors la façon dont les Alliés ont mystifié pendant 2 ans, moi j'avais peut-être appris ça à l'école, mais j'ai complètement oublié comment ils ont mystifié Hitler et les nazis.
Mais effectivement, si vous voulez, quand on est parti sur ce sujet-là, la grande question qu'on s'est posée, évidemment, c'est comment aborder ce sujet que le grand public connaît ou a le sentiment de connaître, qui a beaucoup été traité par la fiction, par des docus, etc. Et on s'est dit que le sujet le plus percutant était de raconter comment l'événement avait été préparé, pensé, imaginé dans les mois qui ont précédé cet événement. Et effectivement, il y a cette histoire incroyable. Si vous voulez, les Alliés battre les Allemands, percuter les forces d'Hitler, c'est pas facile.
Non, parce qu'on voit, le documentaire commence comme ça, où on voit les centaines, milliers de morts qu'il y a eu, la difficulté d'affronter les troupes nazies.
Effectivement, c'est un défi incroyable. Donc, ce qu'ils vont se dire, c'est qu'il va falloir... tromper Hitler. La grande ambition des Alliés, c'est de faire croire à Hitler que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. Ce qui peut paraître logique, c'est la route la plus courte entre l'Angleterre et la France. C'est la route la plus courte pour aller ensuite à Berlin. Donc ils vont tout faire pour faire croire aux Allemands que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais, alors qu'en réalité, le débarquement aura lieu en Normandie. Et pour faire ça, ils vont imaginer des stratagèmes absolument incroyables. Ils vont créer une fausse armée avec des images que vous découvrirez dans le documentaire, des chars en caoutchouc, des faux avions, etc., qui positionnent dans le sud-est de l'Angleterre pour faire croire au service allemand qu'une attaque se prépare dans le Pas-de-Calais. Ils vont aussi créer un faux trafic radio absolument incroyable pour faire croire que cette fausse armée existe. Et puis, il y a tout le travail des agents doubles, absolument, c'est-à-dire des espions, qui vont envoyer des fausses infos aux Allemands pour leur faire croire que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais.
Ouais.
Mais c'est la grande opération Fortitude qui a été souvent évoquée et absolument détaillée. Il y a un petit volet là-dedans qui n'est pas forcément évoqué, c'est le rôle des Français, enfin des services français, j'allais dire, des résistants. Et il y a même eu des réseaux de résistance qui ont été sacrifiés dans le cadre de cette opération
Fortitude.
Alors
ça, c'est souvent une question qu'on nous pose et forcément une question sur laquelle on a essayé de trouver des éléments. Il y a des histoires qui circulent. Il n'y a rien qui, nous, en tout cas, dans ce qu'on a trouvé, de suffisamment établi pour qu'on puisse le raconter dans le film. On a, c'est-à-dire, cette idée qu'on aurait donné des fausses informations volontairement à des résistants pour qu'ils tombent sous la main de la Gestapo ou des Allemands et que sous la torture, ils donnent des fausses infos.
Pour ça, confirmer la version
c'est un sujet compliqué. C'est un sujet délicat. On en a pas mal parlé avec notre conseiller historique.
Olivier Vievorka, qui est l'un des plus grands, meilleurs connaisseurs de la période.
Qui est spécialiste de la période. Et on a considéré qu'on n'avait pas assez d'éléments tangible pour raconter ça. Il n'empêche que oui, il y a eu des mensonges, oui, il y a eu des coups tordus absolument incroyables, mais des sacrifices, on n'a pas les éléments, on n'a pas de preuves en tout cas pour pouvoir raconter ça, et il faut quand même être prudent sur un sujet comme celui-là.
La forme de votre documentaire est remarquable, vraiment on peut le dire. Merci. Parce que vous réussissez. Alors d'abord, il y a des images d'archives assez rare, et puis vous y mêlez de la reconstitution. Ouais. Alors je vous ai dit quand vous êtes arrivé, moi j'aime pas trop ce genre de truc, mais vous l'avez fait de façon assez subtile, où vous faites incarner effectivement les différents protagonistes par des comédiens, et c'est extrêmement, ça apporte vraiment au documentaire.
Effectivement, le parti pris de ce hors-série de cellules de crise, c'est de raconter cette histoire, non pas via des experts ou via des historiens ou des spécialistes.
Il n'y a aucun testimonial.
Voilà, c'est
ce qu'on appelle des gens face caméra.
Non, voilà, c'est ça. Mais c'est de raconter l'histoire. Si vous voulez, ce qu'on a essayé de faire, c'est de raconter cette histoire
en immersion,
dans les coulisses, à travers la voix de ceux qui ont agi, de ceux qui ont pris les décisions, de ceux qui ont pris les risques. Donc on a en fil rouge des personnages
Churchill,
De Gaulle,
Eisenhower
côté allemand aussi, avec le maréchal Rommel, qui est un personnage très important, qui dirigeait toute une partie des forces allemandes. Et on leur fait, alors c'est pas vraiment du docu-fiction, je suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça comme ça.
C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas des acteurs qui rejouent.
C'est ça, on joue
pas
des scènes.
Je sais pas comment vous avez fait, mais c'est très réussi.
Très bien fait, oui.
On leur fait dire des textes pour que vos auditeurs sachent.
Les mémoires, voilà, c'est leur mémoire.
Qui sont des textes authentiques, tirés des archives, donc tirer des mémoires, tirer des lettres, tirer des documents secrets qui peuvent être accessibles aujourd'hui. Donc tout ce qui est dit, c'est une parole authentique, c'est une parole vérifiée, mais c'est un texte qui est dit par des comédiens qui incarnent Churchill, De Gaulle et les autres. Et il y a aussi évidemment des archives, des archives qui portent le film.
Globalement, en regardant votre film, on a quand même l'impression que c'est les Anglais qui ont tiré tous les fils et que De Gaulle n'a presque rien fait pour la libération de la France.
Alors, effectivement, c'est un point qu'on aborde. Les Britanniques et les Américains sont effectivement à la manœuvre. De Gaulle est écarté des préparatifs.
Pas de tout, même.
Oui, il y a les résistants. Les résistants qui sont sur le territoire national et qui jouent un rôle très important pour le renseignement, pour les infos que les alliés vont avoir, des infos très précieuses dont ils ont besoin sur les défenses allemandes, sur le mur de l'Atlantique. Les renseignements envoyés depuis la France par les résistants, c'est très important. Mais De Gaulle, lui, au niveau politique, il est laissé à l'écart.
Les Américains voulaient plutôt Vigan que De Gaulle.
Ils préféraient Giraud, ils préféraient d'autres gens, et même Vichy d'une certaine manière. C'est une histoire compliquée, mais en tout cas, De Gaulle, lui, il n'est pas dans le coup. Et en fait, les Américains ne lui font pas confiance. Roosevelt, qui est le président américain à l'époque, il le considère même comme un apprenti anti-dictateur. Et d'ailleurs, ce qu'on dit à la fin du film,
il ne veut pas célébrer.
Ouais, il refusera toujours de commémorer le débarquement.
Ouais, toujours, Rémi.
Il y a un point qui m'a passionné également, dans tout ce doc qui est très intéressant, c'est l'importance des prévisionnistes météo. C'est-à-dire que vous avez vraiment ressorti des analyses précises du militaire britannique qui était responsable des prévisions et vous nous racontez dans le détail comment il a trouvé une fenêtre météo et les Allemands ne l'avaient pas vue.
Mais vous imaginez la pression de son. On essaye aussi de raconter l'histoire à travers les personnages pour que ce soit à la fois accessible et c'est très fort de raconter comme ça.
Et puis il y a un enjeu, il y a un enjeu terrible, il y a une tension quand on regarde.
Ce qu'il faut que le grand public connaît pas forcément, mais vous imaginez si le temps est mauvais, il y a une tempête et la tempête peut remettre en cause ce débarquement. Le brouillard, les nuages, ça empêcherait les bombardiers les avions et les parachutistes d'intervenir. Les vagues, ça peut faire chavirer les barges de débarquement. Donc si la tempête se poursuit, le débarquement peut être remis en cause purement et simplement. Donc vous avez ce prévisionniste météo qui se retrouve avec une pression incroyable et qui va réussir à voir, lui et ses équipes évidemment, qui sont d'ailleurs pas toujours d'accord entre elles, c'est assez intéressant, mais qu'ils vont réussir à avoir une fenêtre de tir, c'est-à-dire la tempête va se calmer. La tempête va se calmer pendant un certain laps de temps et ça va permettre le débarquement. Et cette fenêtre météo, cette accalmie, les Allemands ne vont pas l'avoir.
Oui, c'est ça qui est incroyable.
C'est ça qui est assez dingue.
Rommel part fêter l'anniversaire de sa femme. Il se dit qu'avec la tempête...
Il ne risque rien. Il part en voiture d'ailleurs, jusqu'à l'Allemagne. Et quand le débarquement a lieu, lui, il est en Allemagne.
C'est un sacré pari quand même. Hein. C'est une histoire dingue.
C'est une histoire. Quand on se replonge dans cette histoire... On est frappé par la dimension romanesque. Et d'ailleurs, on comprend que le cinéma se soit saisi de cette histoire parce que c'est absolument hallucinant. Et jusqu'au dernier moment, d'ailleurs, ils sont très inquiets. Ils savent pas si ça va marcher. On évoque dans le film le texte Eisenhower qui est le commandant suprême, le commandant en chef.
À l'avance, un texte d'échec.
Il écrit manuscrit et il écrit au présent un texte à rendre public si jamais ça devait échouer. Il dit si ça échoue, j'en prends l'entière responsabilité. Ça veut dire qu'il envisage la possibilité d'un échec.
Et vous nous montrez même, à 6 semaines du débarquement, c'est dans le début un peu du doc, à quel point les soldats ne sont pas vraiment préparés. Ils arrivent tout juste des États-Unis et ils ne sont pas formés.
On raconte ça à travers effectivement un épisode qui est pas très connu. Environ six semaines du débarquement, il y a une répétition, un exercice. Il faut préparer les gars à intervenir. C'est une opération sur le plan logistique et militaire très compliquée. Et cet exercice va tourner au fiasco parce qu'ils vont tomber sur une patrouille de navires allemands et ça va très mal se passer.
Ne manquez pas demain soir sur France 2 l'histoire secrète du débarquement. Donc c'est présenté par Julien Bugier. Il faut expliquer qu'il est présent sur les plages et il est totalement intégré au documentaire.
En réalité virtuelle, c'est dans des scènes. Parfois, c'est très, très, très bien réalisé. Ouais, c'est impressionnant. Incroyable.
C'est en tout cas bravo, Michael Gage. Donc vous avez réalisé cette histoire secrète du débarquement avec cette histoire quand même assez dingue. Encore une fois, on redécouvre des choses qu'on avait peut-être pu apprendre en histoire, mais là, vous êtes vraiment dans l'exactitude. Historique et dingue de cette histoire.
Et à la fin du doc, on zappe sur TMC.
Ah oui, parce que votre doc, oui. Mais ce sera donc demain à 21h, l'histoire secrète du débarquement. Merci à vous. On se retrouve tout de suite pour les 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors Gilles.
Alors Valérie, ça va tacler. C'est Canal+ qui vous fait cette promesse. Ça va tacler football et humour. C'est une grande soirée inédite avec des sketchs d'humoristes inspirés évidemment de mauvaise foi comme tout bon fan de football. C'est présenté par Julien Cazard et Sébastien Thoen. C'est déjà sur MyCanal. Et évidemment, on a téléphoné à Sébastien Thoen et on lui a donné 30 secondes pour nous convaincre de se brancher sur ce spectacle humoristique.
Français, salut à toutes et à tous. Ce soir, vous avez deux options, évidemment. Ou être devant un téléfilm pourri sur TF1, ou être devant Netflix avec un gilet jaune en train de déprimer, ou regarder Canal+, l'émission Ça va tacler à l'Olympia, des sketchs, un spectacle, du football. Il y aura évidemment des humoristes, il y aura Julien Cazard, Baptiste Caplin, Guillermo Guis. Il n'y aura pas que des bouffons, il y aura aussi moi, Sébastien Thoen. Ce sera un plaisir de vous voir et on sera tous en gilet jaune. Finalement, on est tous des gilets jaunes. Cazard le premier.
Bon, voilà. Très bien. Écoutez, c'est un bon Sébastien teasing. Thoen, voilà. Ce soir, le jour le plus long, on l'a évoqué avec Patrick Roger ce matin, effectivement, c'est un film qu'on revoit à chaque fois, enfin en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Et c'est un grand film. Camping Paradis sur TF1, c'est tout autre chose. Meurtre au Paradis sur France 2. Mouche, c'est la nouvelle série fiction de Canal+. La mort d'Auguste sur France 5. Le meilleur pâtissier sur M6. Que la bête meurt, un très bon Chabrol sur Arte. Voilà, appel d'urgence sur TFX pour les fans. Je ne sais pas.
Moi, je dis TF1 qui fait une spéciale... un peu Back to the Future, puisque le héros de Camping Paradis va se retrouver quelques années plus tôt, au moment où ses parents se rencontrent dans le camping.
Je pense que Camping Paradis va gagner devant...
Le jour le plus long peut fonctionner aussi. On verra demain.
C'est un film de 62, il est magnifique, mais bon...
Est-ce qu'on est obligé, vous êtes toujours là avec nous, Mickaël, est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de trouver des astuces pour faire du documentaire en prime, c'est-à-dire de mettre de la fiction pour accrocher les gens?
Alors, c'est difficile de répondre, mais en tout cas, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement de renouveler le genre, justement en allant chercher les codes et les techniques de la fiction qui peuvent effectivement apporter quelque chose.
Apporter
une certaine modernité, tout en restant, nous, en tout cas, dans notre optique, dans une dynamique journalistique, c'est-à-dire en s'appuyant sur des archives des documents factuels. Ouais.
Merci à vous. Alors, la gagnante de notre jeu, celle qui a gagné, c'est Miranda. Bonjour, Miranda.
Bonjour.
Bonjour Miranda, bravo. Vous avez des enfants ?
Exactement, j'en ai deux garçons.
Donc ils vont être contents, ils ont quel âge ?
9 et 6.
Ah bah c'est parfait.
9 et 6, donc vous serez au parc Spirou, vous pourrez faire toutes les attractions, des grandes attractions pour les petits, les grands, il y a Lucky Luke,
il y a Boulet Bill,
il y aura tout le monde, ils seront tous là, donc tant mieux. Vous habitez où, Miranda ?
J'habite pas très loin de Monteux, j'habite à environ 3 quarts d'heure de Monteux.
Ah bah c'est formidable, et vous connaissiez ce parc ?
Oui, j'en ai entendu parler.
Bon, écoutez, je pense que vos enfants vont être contents. Le parc Spirou, Provence, près d'Avignon. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité.